There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission, quasiment la dernière de l'été, mais pas tout à fait, on vous le dira à la fin de l'émission. Vous connaissez le rendez-vous, c'est la grande séance, on va parler cinéma, on va avoir des rendez-vous avec nos blogueurs. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est Antoine Julien de Mon Cinématographe, bonjour Antoine.
Bonjour Bruno.
Et Benjamin Bonnet de In the Mood for Ben, bonjour Benjamin.
Bonjour Bruno.
Notre invité, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'homme du jour parce que son film a bien démarré et son film, alors la première question que je vais lui poser... a eu d'excellentes critiques, il s'appelle Irréprochable avec Marina Foïs et Jérémy El-Khaïm. C'est bien de commencer avec de si bonnes critiques, c'est presque unanime, ça vous donne déjà la grossette un peu ?
Oh bah oui, sûrement, vraiment. Non mais c'est plutôt une bonne surprise, effectivement on a une presse qui nous a bien accompagnés, très bien même. Et en plus, les premières séances sont très encourageantes, donc je suis très très fatigué de cette promo, mais du coup très heureux de ce qui a l'air de se passer aujourd'hui.
Alors on va parler longuement de ce film, Irréprochable, avec entre autres Marina Foïs et Jérémy El-Khaïm, et la petite Joséphine Japy, c'est ça ?
Joséphine Japy, voilà. Violet, ouais.
Et Benjamin Biolay, bien sûr, qui joue un amant assez redoutable et assez sensuel. Nicolas Balazar, comment fait-on pour communiquer avec nous ?
Bonsoir à tous. Pour poser vos questions et pour agir en direct pendant l'émission, c'est sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook.
Alors, dans un instant, on va faire les tops et les flops de ces 15 derniers jours. Antoine Cyr, nous l'aurons par téléphone. Et il nous parlera, écoutez bien, des 100 ans de Olivia de Havilland. Voilà, c'est une vraie légende... une grande dame du cinéma hollywoodien qui a fêté ses 100 ans il y a quelques jours. On parlera du festival du film de La Rochelle. On est en plein boom du festival qui présente d'ailleurs Irréprochable. J'ai vu ça. Comme débat, et vous pouvez intervenir bien sûr, c'est l'été est-il une saison de cinéma ? Les Américains ont l'habitude de sortir leurs films là. Et là, il y a toute une flopée de blockbusters. On en parlera parce que c'est autour de la nostalgie puisqu'on va avoir 32 ans après un nouveau SOS Fantôme. On va avoir le retour d'Independence Day, enfin bref, pour ne pas citer Jason Bourne et autres insaisissables ou je ne sais quoi. Donc c'est... Mais nous, on est plus timides, les Français. Alors on essaiera de se poser la question pourquoi. Et puis, on va faire un joli blind test sur le foot dans le cinéma. Alors, comme il n'y a pas eu tant de films sur le football que ça, ce sera peut-être relativement facile à deviner. Voilà, ça, c'était la fin de l'émission. Dans un instant, on parle des tops et des flops.
La grande séance, le box-office.
Bon. Comme Camping 3 est sorti quoi il y a 2 semaines,
petite semaine,
donc c'est le top. Hein. Il comptait hier soir 1 400 000 entrées.
Ils en attendent 4 millions, je crois.
Ils en attendent 4. Mais au démarrage, évidemment, ils avaient été aidés par la fête du cinéma. Avec leurs 400 000, j'avais entendu dire à leur journée du soir qu'ils espéraient 6-7. Là, ça sera 4. 4, c'est l'équilibre, hein. Mais je pense qu'ils seront un peu déçus à 4. Je pense qu'ils espéraient plus. Ouais. Ça, c'est le top. Parmi les flops, non, j'en ai pas mis beaucoup, heureusement. Oui, il y a un autre top, mais qui continue. C'est Retour chez ma mère, qui fête ses 1 928 000 spectateurs. Donc, qui va vers les 2 et peut-être plus si affinité. Voilà un
très
film.
Beau succès.
Voilà un film qui peut continuer cet été.
Ah oui.
À marcher
vraiment.
Tranquillement et fait aller vers les 3. Le flop, quand même, c'est L'Idéal de Beck BD.
Cinglant, c'est un énorme vide, hein. C'est un échec énorme.
Hein, Antoine, ouais. il est à 165 000 entrées en 2 semaines, ils attendaient mieux, évidemment. Bon. Côté américain, on m'a soufflé, parce que moi je suis pas très Conjuring, c'est ça ? Que c'est un
Conjuring 2, oui.
800 000 entrées. en une semaine.
Ouais, ouais, c'est un gros démarrage. Un gros même démarrage. Si, parce qu'il y a une, faut juste dire deux mots là-dessus, il y a une polémique par rapport à la sortie du film, des séances qui ont été très chahutées, voire même violentes.
Ouais.
Et certains réseaux de distribution n'ont même pas osé le sortir, craignant des dérapages.
J'ai
beaucoup de dérapages.
Je sais, il n'a pas sorti.
Pour ne pas le citer, en
voilà,
effet, voilà. Et ça a été une sortie très mouvementée. Et en même temps, le public est largement au rendez-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres films d'horreur qui sont sortis juste avant. Et qui n'ont pas eu tous ces problèmes, mais celui-là a eu un tel battage médiatique que les gens se sont transformés pendant la séance.
D'après ce que j'ai lu, il y avait des gens qui voulaient vraiment souffrir tranquillement et avoir peur tranquillement, et d'autres qui hurlaient à la moindre image et tout ça, et qui gâchaient
le plaisir d'avoir peur.
Ouais. Il ne faut pas gâcher ce plaisir. Dans les flops américains, il y en a pas mal. Love and Friendship, qu'on annonçait plutôt fort, et qui est à 82 000 entrées seulement.
Oui, c'est une petite sortie.
Oh mais quand même, c'est en deux semaines 80 000 entrées, c'est pas un succès. Hein. Ninja Turtles, ça on me l'a soufflé, parce qu'il paraît que 400, moi j'aurais jamais pu dire que 433 000 entrées pour Ninja Turtles c'est un échec, mais c'est un échec.
Oui, on peut le dire, c'est un échec.
On peut le dire. Et puis celui-là je l'ai trouvé tout seul, un traître idéal quand même,
ouais.
Avec notre ami Erwan McGregor.
L'adaptation de John le Carré, oui.
Ouais, 103 000 entrées en trois semaines.
Mm.
C'est pas un franc succès, hein.
Non,
il y a des petits films français qui font mieux, hein.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Irréprochable va faire mieux.
Ouais. On peut juste, en film français, vous en avez déjà parlé, mais en film français, un échec quand même un peu regrettable, c'est le film de Christophe Baratier.
L'Outsider qu'on avait
qui
bien
ne marche
aimé.
Pas du tout, qu'ils ont tenté de sortir juste avant la fête du cinéma et ça n'a pas été très payant, et c'est pas le premier thriller adapté,
c'est curieux,
de
hein.
faits réels et d'affaires récentes, ouais. qui se plante. On avait eu l'enquête
curieux,
de Vincent Garanc,
hein.
la dernière aussi,
ouais.
c'est un genre qui a du mal.
Et puis le titre a pas dû attirer, et puis les gens du Jérôme Kerviel, ça va être un documentaire sur Jérôme Kerviel, alors que c'est un vrai film grand public, quoi.
Ah, complètement,
voilà,
complètement.
Très très facile, donc on peut encourager les il est encore en salle. Le public à aller voir. Dans un instant, on se retrouve avec vous, Antoine et Benjamin.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Antoine, vous allez nous parler, Antoine Julien, d'un très joli film. Je ne sais pas, il doit avoir, moi je dirais, à vue de nez qu'il a 40 ans.
51 ans.
D'accord.
1965, ça ne rajeunit pas.
J'ai plus vieilli qu'il ne me semblait. Les poings dans les poches de Marco Bellocchio, c'est la ressortie. Voilà.
Oui, alors cette version, c'est le premier film de Marco Bellocchio sorti en 1965, qui a été restauré magnifiquement par la Cinémathèque de Bologne, où a eu lieu récemment d'ailleurs un grand festival du film restauré. Les poings dans les poches, c'est un film qui a marqué à l'époque. Il sort en 65. C'est l'histoire d'une famille en Italie, hein, l'histoire d'un jeune homme qui est atteint d'épilepsie et qui va briser, voire même foudroyer le carcan familial. J'en dis pas beaucoup plus parce que on découvrira au fur et à mesure ce qu'on appelle foudroyer le carcan familial, mais c'est très violent dans le film. C'est vrai qu'à l'époque, le film a été un peu annonciateur de la remise en cause de l'ordre établi. Alors le film sort en 65, trois ans avant 68, des valeurs familiales, et c'est vrai que Bellocchio filme un être qui va peu à peu détruire cette cellule familiale, et donc il y avait cet aspect de rébellion très fort à l'époque, Bellocchio s'inspirant de son histoire vraie, enfin d'une histoire un peu vraie, de son histoire de son frère jumeau qui s'était suicidé, de son histoire familiale, et c'est un film qui avait toutes ces valeurs-là à l'époque. Alors on peut le voir aussi aujourd'hui comme un être plus malfaisant qui veut détruire les êtres qui le gênent, c'est comme ça que ça se passe dans le film. Donc il y a deux lectures possibles. En tout cas, il y a un malaise diffus tout au long du film, alors par l'acuité du regard de Bellocchio,
il a bien vieilli, le film.
Sa mise en scène, et c'est ça qui est très très fort, c'est que d'ailleurs c'est très bien qu'il ait été restauré, puisque l'expressionnisme allemand qui a beaucoup inspiré Bellocchio dans ses premières œuvres, il le dit lui-même, hein, Murnau notamment, on le ressent très très bien avec cette restauration 4K qui vraiment sublime les contrastes, et c'est vrai que le film pour le coup à ce niveau-là n'a pas vieilli, et évidemment qu'il a vieilli par certains typologies de personnages, mais ce qu'il raconte c'est sur la famille, et sur la famille ça nous touche tous. Mmh. En plus il évoque des tabous, il évoque quand même l'inceste, alors évidemment on est en 65, donc il évoque pas aussi frontalement qu'aujourd'hui, mais il le fait très très bien, et ce mystère qui est entretenu tout au long du film, il est aussi dû à la musique d'un certain Ennio Morricone, qui venait déjà des dollars de Sergio Leone,
des années 60.
Mais qui s'engageait dans un autre cinéma, plus contestataire, plus rebelle, peut-être plus jeune en tout cas. Et c'est vrai que Bellocchio, avec ce film, marque le renouveau du cinéma italien, parce que Bertolucci arrive en même temps, hein, et c'est cette nouvelle génération vont faire en tout cas dans les premiers films de Bellocchio des œuvres très contestataires, très brutes et qui sont tout aussi passionnantes aujourd'hui parce que le propos n'a pas changé. Le propos est
alors,
toujours
ce qui est très beau, c'est que vous dites que ça a 51 ans et il y avait un certain même Marco Bellocchio qui présentait un film à Cannes cette année.
Et voilà.
Il a quoi, 80 et des poussières.
Il a 80 et des poussières. Fête Beau Rêve a fait en effet l'ouverture à la quinzaine des réalisateurs cette année
film,
à Cannes, qui sortira je crois à la fin de l'année et qui marque en effet la continuité d'un cinéaste toujours pleinement talentueux.
Merci Antoine Julien, mon cinématographe, oui. Et vous Benjamin Bonnet.
Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler de cinéma mais d'une manière un peu de travers,
enfin,
des chemins de travers, oui. Exactement, et faire un peu la promo à la fois de BNP Paribas parce que je lance une grande tournée avec YouTube à partir de demain qui va s'étendre sur tout l'été. Alors ça rejoint un peu le sujet de l'été et du cinéma, mais on va aller avec l'aide de 10 académiciens qui sont issus de la Mobile Film Academy, donc détectés par BNP Paribas dans le cadre du Mobile Film Festival, aller former des jeunes dans des MJC de quartier dans vraiment l'ensemble de la France. On démarre demain en Île-de-France et on va partir sur Bordeaux, Marseille, remonter par Lyon, l'Alsace et le Nord. Et c'est un vrai projet qui a pour but d'aller toucher en fait ces jeunes entre 15 et 20 ans qui ont des envies de création de cinéma et ils vont devenir réalisateurs. Pendant 2 jours, on va les accompagner. Alors le hashtag de la tournée, ça s'appelle TMTF, toi-même tu filmes, en référence aux idiomes toi-même tu sais que j'ai découvert donc autour de la fraternité. Donc on les accompagne en leur donnant des outils pédagogiques de création et de réalisation. Donc ils vont avoir un téléphone portable, ils seront eux-mêmes les réalisateurs, ils vont déterminer dans l'équipe qui seront les acteurs, quelles seront les thématiques qu'ils vont vouloir mettre en avant. Il y aura un monteur, un assistant monteur, et on fait un tourné monté, c'est-à-dire que les téléphones leur permettent pendant 90 secondes de faire de raconter une histoire, de créer une dramaturgie, de faire de la mise en scène, de faire du jeu avec une unité de lieu si possible
dans la ville où vous serez,
dans la ville où on sera exactement,
avec des personnages, peut-être des petites fictions,
alors complètement fictionnelles. C'est ça l'idée, c'est que on les aide pendant une demi-journée à poser justement sur ces thématiques de la fraternité les sujets dont
un
ils ont
scénario,
envie de parler,
ouais.
Un petit scénario exactement avec 1, 2 ou 3 personnages, un héros qui évolue, un adversaire, une situation et il faut la résoudre et un nouvel équilibre à la fin. Et on les aide à monter, ils sont les réalisateurs de ce film et tous ces films là qui seront issus de cette tournée feront partie d'un grand concours à partir du mois de septembre où il y aura un jury de professionnels qui viendra décerner des prix aux meilleurs films et les gagnants partiront d'ailleurs une semaine à Los Angeles se former au YouTube Space de Google, donc avec l'objectif de leur donner des outils pour continuer à faire des films et se former et raconter des histoires à travers la vidéo.
Merci Benjamin Bonnet, je rappelle votre blog In the Mood for Ben. Oui,
oui, je précisais juste que la ressortie du film de Bellocchio aura lieu le 13 juillet, à partir du 13 juillet dans les salles.
Voilà. Absolument, dans un instant on se retrouve avec Sébastien Marnier, notre invité du jour.
La grande séance, l'interview.
Alors Sébastien, moi j'étais sur Wikipédia, j'ai cherché un peu votre carrière, j'ai vu que vous étiez écrivain avant tout.
Mm-hmm.
Et puis que vous étiez passé au cinéma à travers des courts-métrages d'abord.
Oui, j'ai fait 3 courts-métrages qui commencent à dater un petit peu, quoi. Mais j'ai commencé par les courts. En fait, avant, j'étais peintre, enfin, j'étais plasticien. Et ensuite, j'ai fait des courts-métrages. Et pendant les 10 dernières années qui viennent de passer, j'ai essayé de faire des longs-métrages.
Mmh. Et qui n'ont pas abouti. Intéressant. Les 10 dernières années.
Ouais, les 10 dernières. Pas sur celui-là, heureusement. On fête les 3 ans, là, pour la sortie. 3 ans de travail, quand même. Mais les 10 dernières années, donc les 7 ans avant, j'ai 3 projets qui n'ont pas abouti. Et j'avais une grande frustration, un grand malheur. Et du coup, j'ai écrit des romans pour raconter des histoires autrement.
Parce que pourquoi ils n'aboutissaient pas, les projets?
Maintenant,
c'est des scénarios qui n'allaient
avec
pas...
Avec le recul, je me rends compte aussi que c'était des projets peut-être déjà pas forcément complètement aboutis, mais peut-être trop ambitieux aussi pour un premier long. À chaque fois, j'avais toujours des castings assez super, mais les films se sont arrêtés à des stades différents de.
Et quand vous dites ambitieux, c'était au niveau des moyens que ça demandait.
Oui, voilà, c'est ça. Ou même en fait, le prochain film que je vais tourner l'année prochaine, en fait, c'est un film sur lequel je travaille depuis 12 ans. Donc, était le premier. J'avais acheté les droits du livre lors de la sortie que j'adapte il y a 12 ans. Et en fait, c'est vrai que c'est un thriller avec des adolescents et tout ça. Et c'est vrai qu'on à l'époque, donc c'était ça, il y a effectivement 10 ans.
C'était trop posé.
Oui, enfin le scénario plaisait beaucoup, mais je pense d'ailleurs que j'aurais pas du tout eu la maturité pour diriger les enfants et aller au bout peut-être du projet. Je pense que ça faisait trop peur.
Irréprochable à débloquer la situation.
À débloquer la situation, ouais, un peu, c'est vrai.
Alors Irréprochable, c'est venu comment? Il y a eu déjà, il y a eu un livre avant, non?
Non, ça c'est vraiment un scénario original, après qui est une variation sur des thèmes sur lesquels j'ai bossé dans les romans.
Alors on va, pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, hein, je dis qu'il y en a, il y a eu 54, mais il y en a eu beaucoup plus ensuite en périphérie, et on verra ce soir. Mmh. Il y a eu combien périphérie 14
pas, j'ai demandé à me...
Je sais que Paris, c'était 750, Paris Intramuros, je crois.
À 14h, voilà. Après...
Donc l'histoire, je la connais bien, moi, parce que j'en ai parlé ce matin, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur Europe 1,
si,
à 8h. J'ai dit, c'est Marina Foll. l'histoire, c'est l'histoire de Constance, qui est une... qui est une fille plutôt sympa, comme ça, au premier abord, qui est à Paris, qui n'a plus de boulot, donc qui revient dans sa ville natale. Alors, toute contente, parce que c'est sa ville natale, quoi, c'est sa province. Elle retrouve la maison familiale, sa mère est malade, un peu mourante. Elle retrouve son vieux jogging, etc. Et puis, comme si de rien n'était, elle veut retrouver le boulot qu'elle avait. Mais on sent déjà, au premier contact avec le directeur, qu'elle a foutu la merde en partant. Il y a eu toute une histoire. Le directeur de l'agence immobilière où elle veut retravailler, avec son ex-petite amie Jérémy El Kaïm, ça va pas non plus. Et elle fait comme si, c'est extraordinaire, elle fait comme si de rien n'était, comme si elle était coupable de rien. Elle est toujours dans le déni total. Et elle comprend pas pourquoi on la reprend pas dans cette agence. Et quand, en plus, ça fait aussi penser un tout petit peu à Harry, cette amie qui fait du bien, ce côté intrusif, etc. Quand elle s'aperçoit que qu'on prend une jeune fille à sa place, là, toujours sans donner l'impression de péter les plombs, ça pète les plombs à l'intérieur et elle va commencer à disjoncter, quoi, à espionner la fille, et puis j'en dirai pas plus, à espionner la fille quand elle est chez elle, voilà, il y a un truc qui va pas du tout. Et ce qui est très intéressant dans votre film, c'est qu'il y a un côté, en tout cas pour moi, il y a un côté thriller, comédie noire, il y a du suspense, il y a une tension, on se demande à chaque fois ce qui va arriver, et puis il y a un côté social, parce que à aucun moment, enfin en tout cas pour moi, d'ailleurs je suis pas d'accord avec une critique que j'ai lue, c'est peut-être dans Libé, je sais pas, qui dit que oui, mais l'enjeu c'est pas assez social, etc. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, non, qui dit qu'elle est pas attachante, elle est très attachante en fait, elle est très attachante parce que c'est une victime de la société, voilà, c'est une victime comme une autre, elle est paumée, et au lieu de se plaindre en victime, elle continue à se battre à sa manière, mais sa façon de se battre, c'est pas dans le cadre d'une vie sociale, mais en fait elle veut pas admettre qu'elle est paumée, donc, mais ça existe, et je pense que c'est ce qu'on appelle une sociopathe aujourd'hui. Ça fait penser au type de Night Call, là, qui est un vrai sociopathe aussi. Voilà, il y a pas mal de sociopathes. Mmh. Et donc, vous, alors voilà, j'ai bien raconté l'histoire.
Ouais, c'est vrai.
Vous, les sociopathes vous intéressent.
Bah oui, parce que c'est exactement ce que vous résumiez à l'instant. C'est-à-dire que ce genre de monstre-là raconte complètement la société dans laquelle on est, quoi. Donc, c'est ce genre de sociopathe qu'on pourrait aussi appeler beaucoup, enfin, qui est très un terme à la mode en ce moment, de pervers narcissique.
Ouais,
on définit comme les monstres de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que je crois que chaque époque fabrique des monstres différents, et Constance est un monstre d'égoïsme, mais parce que la société pousse à ça aussi. Ouais. Et puis comme vous le disiez, c'est une femme combattante qui est en train de tout perdre. Et effectivement, on peut pas la défendre jusqu'au bout, mais j'avais, en tous les cas, moi, je la comprends.
C'est pas, moi, j'ai lu un monstre d'égoïste, je la trouve pas égoïste. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, comme les sociopathes d'aujourd'hui.
C'est ça, les sociopathes.
Elle n'a pas d'empathie, c'est-à-dire que elle fonce et voilà, elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle n'a pas d'empathie. Et tout en étant, et vous l'avez dessiné comme ça, complètement normal, puisque elle a une relation torride. Avec au passage avec Benjamin Biolay, qu'elle a rencontré par hasard, donc on sent que elle fait du sport tout le temps avec son petit jogging, là on sent que c'est une fille qui pourrait être totalement équilibrée mais qui va disjoncter. Vous voyez, on n'a pas trop spoilé là. Alors ce projet, pourquoi il a pu s'accrocher que les autres? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, déjà, je crois que c'est aussi la quête des jeunes réalisateurs, c'est quand même de trouver la production aussi. Donc, en l'occurrence, moi, ma productrice Caroline Montmarchand pour Avenue B, en fait, je pense que j'ai mis 10 ans à la trouver. Donc, c'est d'un seul coup, pourquoi une adéquation.
Vous l'avez convaincue?
J'ai convaincu, en fait, j'avais Marina déjà, en fait, parce que. Bref,
vous avez eu Marina avant?
En fait, c'est Marina qui m'a présenté la productrice, puisqu'ils venaient de faire ensemble la ritournelle de Fitoussi. Ouais. Et du coup, on déjeunait ensemble et Caroline était là dans le même resto que nous et Marina est allée la voir, voilà, parce que j'avais un autre producteur que j'ai abandonné en cours de route Et voilà, et Caroline, comme quoi ça peut arriver de temps en temps dans ce métier qui est quand même très dur. Je lui ai déposé le scénario l'après-midi. Elle voulait m'appeler le soir même, mais elle s'est dit non, je vais quand même pas l'appeler parce que ça fait vraiment la productrice hystérique. Et donc m'a appelé dès le lendemain matin pour me dire qu'elle voulait le faire. Donc ça, c'était quand même une belle histoire. Et voilà, et on a envie de retravailler ensemble. Après voilà, on avait Marina, ce qui est pas forcément, bon, c'est quelqu'un évidemment, c'est une actrice qui est très connue maintenant, mais c'est pas forcément
quelqu'un d'abord forcément facile, c'est
ça? Ah si si, non vraiment, très très facile, si, enfin en tous les cas avec moi ça s'est merveilleusement pas bien passé depuis le début, mais je veux dire, si j'avais écrit Papa ou Maman ou une comédie, évidemment d'avoir Marina comédie, c'est plus facile à monter. Ouais. Là, ça a été un petit film, mais qui s'est fait dans des très bonnes conditions quand même.
Elle était un peu à contre-emploi, sauf qu'on l'avait vue dans Darling, où elle était... c'était un rôle assez dramatique aussi.
Dans Orage aussi, de Fabrice Camus. Ouais.
Et dans Police aussi.
Et dans Police.
Pour tout vous dire, moi, Marina Le Serre, moi j'étais complètement passé à côté de Robin des Bois, je ne regardais pas les Robin des Bois, donc en fait je l'ai découvert sur scène dans une pièce de copie à la MC 93, donc il y a 10 ans, dans la Tour de la Défense, que mettait en scène Diffon Zobo. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais qui est cette femme qui était quand même assez incroyable sur scène. Donc après, je suis allé voir effectivement sur internet des extraits, des Robins et tout ça. C'est une actrice avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps.
Et elle, comment vous l'avez convaincue? Pareil, d'abord le scénario, ouais, elle l'a lu et ça lui a...
Par le scénario, je lui ai donné vraiment la deuxième version du scénario, qui était pas tout à fait celle évidemment qu'on a tournée. Il y a eu un an de travail encore entre temps pendant le financement du film. Mais elle a dit oui tout de suite, déjà parce que je crois qu'on s'est bien entendu, et elle savait aussi que c'était un rôle qui lui donnait des choses passionnantes à faire.
Elle a pas hésité, et comment vous avez travaillé avec elle alors? Parce que moi j'ai dit que c'était un rôle à César, et c'est vrai que j'espère qu'on n'oubliera pas ni le film ni elle en février, parce que c'est dans 8 mois, mais c'est loin.
C'est exactement la réflexion que je me suis fait en sortant ce matin.
C'est le plus loin possible des Césars qu'on puisse faire, mais bon, il faudra le mais c'est pas grave, on le rappellera
les propres. On fera une campagne.
Comment elle est comme actrice, ça nous intéresse. Elle serait là, on lui poserait la question, mais vous, c'est votre premier long métrage en tant que directeur d'acteur, donc ça a dû être passionnant de la voir elle, d'avoir
c'était
les autres aussi.
C'était passionnant, et surtout, en fait, ça a été vraiment un travail commun. C'est ça que je retiendrai, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, on a eu un an, en fait, avant le tournage, où régulièrement, en plus on est voisins, on se voyait régulièrement, et je sais pas, à peu près tous les mois et demi, je lui faisais parvenir, je lui faisais lire, je lui donnais une nouvelle version avec des modifications, et puis plus je la connaissais, plus je la découvrais. Donc du coup, des choses
vous
qui
avez adapté le scénario un peu
beaucoup
à,
de forcément
à elle, ouais.
En fait, c'est surtout et puis ce qui était incroyable pour moi, c'était que tous les mois et demi, elle me jouait moi des scènes. Donc je voyais aussi ce qui fonctionnait, j'avais des retours en direct, c'est comme si on faisait des lectures régulièrement. Et parce que il fallait, moi ce qui m'intéressait vraiment avec Marina sur ce personnage, c'était comment on allait le déconstruire et comment on allait lui donner plein de facettes. Ce qui est intéressant avec Marina, c'est que c'est un petit bout de femme qui est extrêmement puissante et qui a une rage, une force en elle, de la tragédie aussi, et évidemment un sens du rythme de la comédie qui est génial. Donc je voulais, moi j'avais écrit les scènes où il y avait ces montagnes russes, même dans ces dialogues.
Oui, comédie noire.
C'est une comédie noire, évidemment. Constance est une femme très intelligente, j'en suis persuadé.
Ouais.
Et donc elle a évidemment des bons mots, donc elle fait rire. Elle fait rire aussi parce que des fois elle exagère. Donc et puis le spectateur, je m'en suis rendu compte sur
des projections,
rit aussi parce que par moment on a besoin de rire quand la tension
est forte. Par exorcisme.
Exactement.
Alors est-ce que vous, en tant que metteur en scène, elle s'est pliée à vos indications? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à des moments? Est-ce qu'elle est entrée dans le rôle facilement? Parce que c'est un rôle rude.
Mais
enfin, rude.
C'est,
oui et non, mais.
Mais vraiment, enfin, ça a été. Je dis pas que ça a été facile, mais tout s'est passé quand même relativement facilement. En fait, la première journée de tournage, c'est des scènes que j'ai coupées d'ailleurs, où c'était vraiment encore plus de sport, parce que Marina, du coup, s'est entraînée pendant 3 mois avant film.
Ah bon.
Et je l'ai filmée en plan séquence faire 25 pompes. Je lui ai fait refaire la prise 5 fois, et elle les a fait. Et elle
25
était,
pompes.
Et elle était.
Il y a des mecs qui les font pas. Hein.
Non, et elle était très très fière d'elle. Et du coup, c'est vrai que cette journée était en plus sans dialogue et tout ça, donc que des pompes et des abdos. On a beaucoup ri sur cette journée. Et deuxième journée, j'ai eu un peu plus peur parce que il y avait déjà des questions qui se posaient justement sur le rythme à l'intérieur des séquences. Et puis, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était quand même mon premier film, que j'avais 60 personnes autour de moi, que j'avais pas forcément la réponse et que ça, c'est assez terrifiant. Donc, j'ai eu, moi, 3 jours à peu près d'adaptation aussi, mais juste d'être le chef d'orchestre au milieu, en fait. Mais Marina, en fait, ça a été vraiment facile. Et comme on, du coup, à partir du 4e jour, vraiment, on avait trouvé tous les deux la manière
de guider le personnage,
de comment, de qui était vraiment ce personnage. Après, du coup, au bout de 3-4 prises à chaque fois, c'était fait. Donc, du coup, on avait quand même un peu de temps aussi pour chercher d'autres choses. Et donc, c'était très épuisant pour Marina, parce que le rôle est très physique. Que j'avais que 32 jours de tournage, donc c'était des journées très intenses.
Ah oui, c'est court, 32
jours de tournage. Très court, ouais, très court. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle me disait, je voyais que vraiment, elle n'allait même plus, à partir de la 2e semaine, elle allait déjà plus aux loges parce qu'elle trouvait ça trop loin tellement elle était fatiguée. Et du coup, elle dormait sur le plateau et elle me disait, mais tu te rends pas compte, sur Papa ou Maman, des fois, il y a 4 heures de mise en place d'éclairage que nous, on avait 10 minutes, quoi. Donc, du coup, c'était ouais, très intense. Et je pense que c'est aussi tout ça qui a créé aussi une entente de l'équipe formidable.
Antoine Julien,
est-ce que vous trouvez que le métier d'agent immobilier est un bon métier de cinéma? Parce que il y a plusieurs films dans le film, c'est plus qu'une toile de fond, il me semble. Ça lui permet même d'être particulièrement intrusive, notamment auprès de cette jeune femme. Est-ce que c'est un voilà, est-ce que pour vous c'était un métier comme un autre, ou est-ce qu'il avait une valeur, on va
c'est
dire
pas un
cinématographique
comme un autre? Je pense qu'effectivement cinématographiquement, de pouvoir visiter plusieurs appartements en plus là. Évidemment, Constance serait être une grande bourgeoise, donc on visite que des appartements merveilleux, que nous-mêmes, quand on faisait des repérages, on était fascinés de les découvrir. Non, mais je pense que là, ce métier, en l'occurrence, raconte quelque chose du personnage, parce que c'est quand même quelqu'un qui, on le découvre dès le début du film, c'est pas une spoiler, rien du tout, elle n'a plus de toit. Donc c'est quelqu'un qui est obligé de revenir vivre chez sa mère, donc la question du logement, dans sa précarité, évidemment, elle est passionnante. Et surtout, moi, je connaissais quelqu'un qui était agent immobilier et qui dormait vraiment dans les appartements. En fait, je crois que c'est assez répandu, mais pas forcément pour la nuit et tout ça, mais d'aller faire des siestes. Et parce que voilà, quand on a plein de clés, c'est très pratique, quoi. Donc, il y a quelque chose forcément de cinématographique et qui raconte quelque chose du personnage.
Alors, une dernière question, ou une avant-dernière. Il y a un avant et après la réalisation d'un premier film. Qu'est-ce que vous ne saviez pas et que vous avez découvert en faisant ce premier long métrage? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce travail ou tout ce que vous avez fait au cours de ces 32 jours, vous y attendiez?
Sur le tournage en tant que tel, je ne m'y attendais pas parce que, en tous les cas, moi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Parce que je ne voulais surtout pas que ce plaisir que j'attendais depuis des années soit gâché par quelconque conflit entre des gens de l'équipe ou avec les acteurs. Donc moi, j'ai pris soin vraiment à ce qu'il y ait une bonne ambiance. On était en plus au soleil. Enfin, vraiment, on a eu un temps merveilleux. Ça participe.
C'était où
aussi? On a tourné à La Rochelle.
À La Rochelle, ah oui.
Et voilà, moi, je ne voulais pas que ça soit gâché, ce truc-là. Donc en fait, je n'ai pas eu de mauvaises surprises sur le tournage.
Qu'est-ce que vous avez appris alors?
J'ai appris que je savais le faire. Donc ça, c'était quand même important.
C'est positif.
Non, mais en fait, sur le tournage, je ne retiens plutôt que du positif. Après, je vous cache pas que la post-prod, ça, c'est très, très long.
Ça va être ma question. Voilà, le temps de post-prod, le montage notamment.
En tout, là, j'ai fini de tourner le 17 juillet. Je suis rentré. Le montage avait commencé pendant le tournage. J'ai fait quand même un break de 3 semaines parce que on était tous rétamés. Et en fait, j'ai repris le montage du coup mi-août de l'année dernière. Et là, le film sort aujourd'hui. Enfin, il y a eu que 2 mois après la fin de la post-prod. Donc la post-prod a duré 10 mois et j'ai passé.
Et pourquoi c'est aussi long?
Mais parce que c'est énormément de travail en fait, quoi. Déjà
c'est
le montage.
Le film se fait surtout. Oui,
le montage dure 3 mois avec des moments. En fait, avant de partir en vacances, donc la monteuse avait fait un ours qu'on appelle, donc c'est-à-dire vraiment le gros du film avec toutes les séquences mises bout à bout.
Ça faisait combien de temps?
3h07.
Ouais. Wow.
Donc là, d'un seul coup, mais ce qu'on voyait dans les images, je savais que l'image de Laurent Brunet, mon chef opérateur, on était très rassurés. En fait, je savais que la difficulté, avant de partir faire cette pause, la difficulté serait de réduire le film, donc c'est-à-dire de couper, qu'il allait falloir sabrer la moitié du film. Donc
ouais, c'était, il fait combien?
Là il fait 1h43, ouais, donc presque la moitié. Mais j'ai eu du coup ce moment de pause pour réfléchir à ce qu'il y avait de l'importance et tout ça.
La contraction.
En fait, c'est vrai qu'un film, moi, on m'avait dit ça, mais je crois vraiment que c'est la définition que je retiens. C'est un film, c'est vraiment ce qui reste. Et donc, après tout ce qu'on a coupé, et puis la collaboration aussi de tous les intervenants qui viennent au fil de la post-prod, je ne savais pas en tournant ni pendant le montage que les musiciens avec lesquels j'ai bossé, les zombies, allaient faire la musique qui donne une partition, je crois, très forte au film. Tout ça, c'est un work in progress. Et moi, j'ai vraiment voulu faire du cinéma pour vivre des passions collectives comme ça, quoi. C'est quand même le seul art, avec le théâtre aussi, mais j'ai toujours été fasciné par l'image, mais où chacun pouvait amener son talent. Et ça, je crois que j'ai été plutôt gâté, en fait. Mais après, ouais, c'est très, très long. Et on sort un peu rétamé de ça, et en même temps...
Vous restez avec nous pour ce film Irréprochable qui sort aujourd'hui. Et justement, on écoute un extrait de la BO. Une petite pause musicale, théoriquement, avec un extrait de Zombie. Extrait de la bande originale d'Irréprochable Zombie. Vous pouvez nous dire un mot, Sébastien, de ces musiciens qui ont fait la musique de votre film? Parce que la musique sort aujourd'hui.
La musique sort aujourd'hui, oui, sur iTunes. Et donc, j'avais envie de le dire parce qu'ils sont vraiment... ils sont assez incroyables, ces gars. Donc, c'est Étienne Jomet, Jérôme Lorichon et Cosmic Neyman, qui sont trois gars qui font de la musique électronique très inspirée à la base des films d'horreur,
oui,
notamment
sent,
de Carpenter.
On sent L'Exorciste.
Tout à fait. Et ils ont fait un EP de reprise de Carpenter qui est vraiment formidable.
Ah ouais, super. Nicolas.
Oui, donc toujours pour intervenir dans l'émission, c'est sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook.
Merci Nicolas. Dans un instant, la séquence événement.
La Grande Séance, l'événement du mois.
Donc, pour vous parler du Festival international du film de La Rochelle, qui a fêté ses 30 ans en 2002, où justement sera projeté, ou a déjà été projeté, Irréprochable, a déjà été projeté, puisque le film se déroule à La Rochelle. Ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque année, cette manifestation se déroule avec la volonté de ne pas avoir de compétition. C'est vraiment du cinéma pur. avec pas de prix, pas de jury. On veut, voilà, on veut pas de confrontation. On veut juste regarder des films. Donc c'est jusqu'au 10 juillet. Il y aura Alain Garaudy qui était dans la compétition à Cannes avec Rester Vertical. Il y aura Babette Schroeder. On va parler de Jean Vigo, de Frédéric Wiseman. Et c'est intéressant parce que dans tous les films qu'on voit en avant-première là-bas à La Rochelle, il y a beaucoup de films de Cannes. Moi, Daniel Blake de Kenneth qui a eu la Palme d'Or. Le client d'Asghar Farhadi. Asghar Farhadi d'ailleurs qui devait être en France mais qui restait en Iran à cause de la mort de d'Abbas Kiarostami. Baccalauréat de Christian Mounjou qui sort non pas cet été, c'est Sierra Nevada qui sort cet été.
Au mois de décembre, Baccalauréat.
Mois de décembre. Marosa de Brian T. Mendoza, qui est un bon film. Aquarius aussi, avec Sonia Braga qui était géniale. Sierra Nevada qui lui sort au mois d'août. Tony Erdmann, dont on dit que ça aurait pu être la Palme d'Or, qui sort aussi au mois d'août. Tour de France de Rachid Djaïdani, qui n'était pas en compétition, mais qui était dans une des sélections parallèles. Et donc, j'avais Irréprochable qui était projeté. Dans un instant, on rejoint notre ami Antoine Cyr, qui n'est pas, malheureusement, avec nous à côté de cette table, mais qui est au téléphone.
La grande séance, le mot d'Antoine Cyr.
Salut, mon cher Antoine.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça ne m'étonne pas de vous, parce qu'on en avait parlé un petit peu ensemble, mais vous avez absolument raison, parce que qui le sait, qu'elle est toujours droite, j'ai envie de dire, toujours dans notre monde, bien vivante. Olivia de Havilland a fêté ses 100 ans il y a quelques jours.
Oui, elle a fêté ses 100 ans. Alors, ce qui est amusant quand même, c'est que ça a suscité un petit mouvement sur Twitter parce qu'il y a eu un hashtag mondial de Havilland 100 qui a été lancé et qui a eu pas mal de succès. Donc quand même, pendant la journée du 1er juillet, celle de son anniversaire de 100 ans, il y a eu des tweets un peu dans le monde entier en son honneur. Et c'est bien normal parce que Olivia de Havilland, centenaire, effectivement...
Elle est née en 1916, alors.
Elle est née exactement le 1er juillet 1916.
Pendant la guerre 14-18, c'est dingue.
Exactement, est un des témoins les plus anciens et les plus extraordinaires de cette période de l'âge d'or d'Hollywood. Alors d'abord, il faut savoir que Olivia de Havilland, c'est une Anglaise qui est née à Tokyo, qui a fait carrière à Hollywood et qui vit depuis 60 ans à Paris dans un grand hôtel actuellement dans un grand hôtel du 16e arrondissement.
Mais je ne l'ai pas croisée, moi, c'est marrant.
Oui, je pense qu'elle sort quand même assez peu maintenant, malgré tout, avec ses 100 ans.
Ça fait penser à Marlène Dietrich un peu, hein, qui vivait aussi à Paris.
Oui, mais Olivia de Havilland est très âgée, mais elle n'a jamais vécu en recluse quand même. Elle a écrit d'ailleurs un livre qui a été un best-seller aux États-Unis, dans lequel elle s'amusait un peu des Français. Ça s'appelait Every Frenchman Has One, et qui racontait de façon un peu amusante son installation en France. Et puis, il y a quelques années, elle a été célébrée par l'Académie des Césars quand même. Elle a eu sa standing ovation, elle devait avoir à l'époque déjà 92 ou 93 ans, mais évidemment maintenant 100 ans, c'est un âge très avancé, on lui souhaite naturellement longue vie. Alors, je vous ai dit que Olivia de Havilland avait appartenu à plusieurs pays, puisqu'elle est née à Tokyo, qu'elle a fait carrière à Hollywood, mais c'est quand même toujours resté une Anglaise, et je pense qu'une grande partie de sa carrière hollywoodienne s'explique justement par son maintien et sa force de caractère, son fighting spirit, qui sont très anglaises, très anglais. D'abord, elle a été la partenaire de Errol Flynn sur 8 films. Alors Errol Flynn, c'était un sacré coquin, c'était un aventurier dans tous les sens du terme, et un briseur de cœur qui voulait naturellement briser aussi celui d'Olivia de Havilland, dont il était très amoureux. Elle-même était assez amoureuse, mais elle lui a résisté, et c'est d'une certaine manière un de ses sujets de fierté. Pourtant, Errol Flynn a tout fait, il lui a fait des déclarations, il s'est mis à genoux devant elle, il lui a mis, pendant qu'elle était dans son vestiaire, des serpents morts dans ses sous-vêtements. Enfin, il a vraiment tout essayé, mais elle n'a pas craqué. Elle a fait autre chose, c'est qu'elle a résisté à Jack Warner. Alors, Jack Warner, c'était l'un des plus grands patrons de studio des États-Unis, et il imposait des conditions extrêmement dures aux acteurs, qui quelquefois étaient à la limite de l'esclavage. Et lorsqu'Olivia de Havilland a tourné dans Autant en emporte le vent, que dans, pour un autre studio, parce qu'il ne faut pas oublier quel est le second rôle de Autant
absolument,
en emporte le vent, elle joue la fragile cousine Mélanie. Donc, lorsqu'elle a tourné ce film pour Selznick et la MGM, elle s'est rendue compte que les rôles que lui donnait la Warner n'étaient pas forcément les bons, et elle a voulu se libérer dès que son contrat avec la Warner s'est terminé. Or, la Warner a essayé de trouver des prétextes pour la garder, et là, Olivia de Havilland a attaqué la Warner. Et il faut imaginer ce qu'est cette petite Anglaise de 26 ans qui s'attaque au plus gros studio américain. À l'époque, la Warner, c'est, mettons, la puissance de Facebook aujourd'hui. Il faut imaginer ce que représente cette petite Anglaise de 26 ans qui s'attaque donc à la Warner pour arriver à se libérer de son contrat et qui va, chose extraordinaire, obtenir gain de cause parce que son avocat lui dit, écoute, ils vont essayer de te faire craquer, ils vont essayer de te faire passer pour une enfant gâtée devant le tribunal, et toi, garde ton calme, explique calmement ton affaire, explique calmement pourquoi tu penses que tu as raison, et finalement, elle va réussir à obtenir gain de cause, et ce procès va jouer un rôle absolument essentiel dans la modification du rapport de force à Hollywood entre les acteurs et les studios. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, Olivia de Havilland est considérée comme une sainte patronne par les acteurs d'Hollywood. Et donc, lorsqu'elle va se libérer de ce contrat avec la Warner, elle va gagner sa liberté artistique, et là, elle va jouer des rôles extraordinaires. Il faut savoir notamment qu'à l'époque, Hollywood est très marqué par la psychanalyse. Elle va jouer dans deux films très importants qui sont pionniers en matière d'utilisation de la psychanalyse pour écrire des scénarios de films. Il y en a un qui date de 1946, qui s'appelle La double énigme, qui est un film noir extraordinaire où elle joue deux jumelles. Alors, il y en a une qui est très bonne, dans le sens très gentille, et une qui est très méchante, mais pourtant le fil qui les sépare est extrêmement faible, et la performance d'actrice de Olivia de Havilland pour passer en permanence des frontières qui sont finalement des frontières presque impalpables est d'une subtilité extraordinaire. Elle joue un autre film sur la schizophrénie qui s'appelle La fosse au serpent, et puis elle va jouer dans un grand film de William Wyler qui s'appelle L'héritière, où elle joue une femme à la fois maltraitée par un coureur de dot que joue Montgomery Clift et puis par son père qui la méprise, et elle-même va finalement dominer ces deux hommes qui pensaient qu'elle serait leur jouet. Et finalement, Olivia de Havilland, elle a fait ça toute sa vie. C'était quand elle est arrivée à Hollywood, c'était une petite porcelaine fragile, et en fait, on s'est rendu compte que c'était une femme au caractère très fort.
Merci Antoine, mais j'ai envie vraiment de vous poser la question, parce que ces reines d'Hollywood, vous en faites un livre bientôt, vous ?
Ah oui, alors le livre, ça fait 5 ans que j'y travaille, parce que c'est un livre de, figurez-vous, de 1250 pages, mais rassurez-vous, il est fait pour être très distrayant.
Il y a des photos.
Il y a des photos, mais il y a surtout du texte quand même, mais il y a à peu près 300 photos, mais surtout, c'est la première histoire, parce que ça n'a jamais été écrit, la première histoire détaillée des actrices d'Hollywood de l'âge d'or. Donc évidemment, il y a les plus connues, il y a Garbo, Monroe, Ava Gardner, il y a Olivia de Havilland, bien entendu. Il y en a d'autres qui sont moins connus, mais dont les films sont souvent très bons. Et en fait, on se rend compte qu'il est tout à fait possible de raconter l'histoire d'Hollywood par les femmes, parce qu'à l'époque, les studios étaient extrêmement puissants, ils étaient dirigés par des hommes. Et en fait, bizarrement, quand on regarde le cinéma de cette époque-là, le cinéma américain des années 1930 à 1950, eh bien, ce sont souvent des femmes qui ont imprimé la pellicule. Alors, les plus connues, mais aussi certaines qui sont un peu moins connues et dont les films sont finalement très regardables aujourd'hui et méritent d'être réhabilités.
Et comment il s'appellera, le livre et l'éditeur ?
Alors, le livre s'appelle Hollywood, la cité des femmes, et il est édité dans une très belle collection de cinéma, puisqu'il s'agit de la coédition de Actes Sud et de l'Institut Lumière.
Et évidemment, Frémaux et tout le reste. Merci beaucoup, mon cher ami Antoine. Dans
Merci.
Un instant, on se retrouve avec la question et le débat.
La grande séance, le débat.
Donc le titre il est tout simple et Sébastien peut participer à cette discussion. L'été est-elle une vraie saison de cinéma ? Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut préciser tout simplement que pour les Américains, c'est pour ça que nous on a très vite, puisque maintenant là il y a une concordance des sorties un peu américaine et européenne. Pour les Américains, l'été est une saison très importante et comme je disais tout à l'heure, on va avoir des boulets des Independence Day, Resurgence, etc. Il y a un Tarzan qui arrive, il y a des blockbusters, il y a pas mal de suite. Il y a Star Trek, je crois que c'est le 13e du nom. Bref, alors que pour les Français, nous, on a peur de l'été. On a peur de l'été, sauf notre ami Sébastien Marnier, parce qu'on est au début de l'été, et son film démarre bien, donc on peut le dire, irréprochable. Donc voilà, j'ai envie de poser la question à tous les trois. Antoine, est-ce que vous pensez que c'est possible que des films français marchent l'été? Parce que il y a deux choses. Là, je vois que cet été, il y a très peu de films européens et français qui sortent, comme si les distributeurs avaient peur.
Le distributeur de Sébastien, en l'occurrence Alexandre Malegui de chez Memento, aime beaucoup en fait sortir des films l'été. On pense à Winter Sleep, qui était un film qui durait 3 ouais. heures, je ne sais plus combien, qui est sorti tout le mois d'août et qui avait fait un vrai pari et qui était gagnant. Donc
parce qu'il les soutient les films à fond la caisse.
Donc peut-être qu'une des vraies questions à se poser, c'est malgré le fait que peut-être l'été, alors qu'il n'a pas vraiment démarré en plus encore chez nous, mais si on parle du facteur temps, et clairement sur la capacité du distributeur à porter ses films malgré a priori des
parce que l'impression qu'on a, c'est que les Américains sortent des films pour l'été. On a l'impression que tout ce qui est blockbuster, c'est bien, on est à la plage, on est en vacances, on a envie de voir plutôt Camping 3 côté français et puis des gros blockbusters américains. Et du coup, les films français qui ont un profil parfois un peu plus fragile, Irréprochable, c'est pas le cas, parce qu'en même temps, c'est un film grand public, c'est comme un polar. Mais des films, on va dire, qui ont un profil parfois plus fragile, on n'ose pas. On a peur qu'ils soient noyés dans le beau temps, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a eu des exemples malheureux, des tentatives ratées aussi de sortir des films.
Moi, j'ai fait beaucoup de papiers.
Très sanglants pour les films, malheureusement pour eux. Parfois, heureusement, parfois malheureusement. Enfin, on va pas dire heureusement parce qu'aucun film ne le mérite. Mais en tout cas, il y a eu des tentatives vraiment audacieuses, mais qui n'ont pas été très payantes. Enfin, moi, de manière générale, je m'inquiète un petit peu du box-office depuis un certain temps. Donc, quand je vois un film, on peut le dire presque d'été, le film de Michael Hudok de Witt, La Tortue Rouge, qui est sorti fin juin et qui fait un score tout à fait en deçà de ce qui est des centaines de milliers de spectateurs qui devraient faire, par exemple, je me dis que c'est un peu normal que les distributeurs, de plus en plus, prennent malheureusement de moins en moins de risques. Alors, on peut en citer quelques-uns quand même. Il y en a notamment un film de Joachim Lafosse qui sort en plein été, qui est un drame psychologique.
Mais on se posait la question avec Sébastien, enfin moi je me posais la question en tout cas, pourquoi sortir ce film qui a été bien accueilli à Cannes et que tout le monde attend un peu, avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn, qui se veut acteur là, et qui est toujours un très bon acteur d'ailleurs, pourquoi le sortir le 10 août?
Peut-être que Sébastien va nous confirmer cette stratégie de distribution via Memento, et Memento a souvent fait ça et c'est assez payant, c'est-à-dire de sortir plutôt en début ou milieu d'été pour profiter encore un peu plus des écrans, alors qu'il y a un embouteillage généralement en septembre, et on sait que souvent la fréquentation s'effondre en septembre. Donc c'est une stratégie, en tout cas chez Memento, Winter Sleep ou d'autres, qui a été assez payante. J'espère pour votre film ce sera aussi le cas.
Je sais pas qui sort l'économie du couple, mais je pense qu'effectivement il y a eu des tas d'exemples de films vraiment envoyés au sacrifice, ça c'est évident quoi. Mais là en l'occurrence pour ce film là, je pense que c'est faudra voir ce qui sort aussi la même semaine, mais je pense que c'est quand même des films qui bénéficient, je crois, comme le mien, qui était une vraie stratégie, parce que on parle de ça quand même quoi. On sait que moi, en face de mon film aujourd'hui, la concurrence, on va dire, française était aussi peut-être moindre. Et que du coup, le pari, effectivement, de Malegui et de Memento, c'est de rester tout l'été. Mais moi, je le vois avec les romans, comme je l'ai vécu avant. En fait, la rentrée littéraire, c'est pareil. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est meurtrier. C'est-à-dire que tout le monde a envie de sortir à la rentrée littéraire. Sauf qu'il y a 600 bouquins qui sortent, quoi. Donc, pour sortir, il y en a une vingtaine qui vont sortir du lot. Que le reste, ça va être terrible. Et que, du coup, les contre-programmations, justement, même en littérature, c'est la même chose. C'est-à-dire que, quand le bouquin ou le film est véritablement accompagné, ça peut être payant. Mais il faut constater, je crois aussi, que en tant que spectateur, est-ce qu'on a vraiment, même nous autour de cette table, envie d'aller voir un film hivernal ou déprimant et tout ça l'été? Je suis pas si sûr. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même ancré aussi dans notre manière de consommer le cinéma. Moi, je suis ravi d'aller voir tous les films de Cannes à la rentrée, par exemple, parce que c'est généralement au moment où il sort. Et en même temps, d'aller voir Indépendance dès l'été me plaît plutôt bien comme idée aussi.
Mais c'est un vieux serpent de mer, parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à un ou deux essais d'un festival qui se passait en Bretagne, à Saint-Malo, pour ne pas le citer, et qui s'appelait le Festival des films de l'été. Et c'était une manière de nous montrer, à nous, journalistes, les films français et étrangers qui sortaient en juillet et août, donc les producteurs distributeurs avaient intérêt à les donner à ce festival pour que nous on fasse des papiers avant, parce que ils ont raison, les distributeurs, les journalistes, moi je suis journaliste à Europe 1, une grosse radio depuis 20 ans, et puis avant c'est une autre grosse radio pendant 20 ans aussi, on s'en va parce qu'on considère qu'il faut être là du 1er septembre à fin juin, donc on n'a pas beaucoup de vacances, et moi je prends 6 ou 7 semaines de vacances, donc c'est vrai que tout le monde m'appelle en disant mais j'ai un film qui sort le 13 juillet, le 20, le 27, et qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai entendu dire, moi, que les distributeurs savaient qu'ils n'étaient pas aidés. Vous n'auriez pas pu avoir la même presse le 10 août?
Non, je crois pas. Et en c'est même clair, temps, hein, franchement, objectivement, non. Ça, c'est sûr qu'il y avait un champ libre. Et en même temps, par exemple, on n'a presque pas de télé parce que la saison est finie. Donc, c'est aussi.
C'est exact.
Voilà, c'est aussi. Il y a aussi des contreparties. Mais c'est sûr que nous, on avait de la place. Marina a vraiment pu exister, a fait une grosse promo. Ce qu'on n'aurait pas fait, c'est, il y a de grandes chances que ça soit pas passé comme ça si on était sorti en septembre.
Alors, il y a eu des contre-exemples. Moi, je me souviens qu'on citait beaucoup La Dilettante de Pascal Thomas, qui, c'était il y a longtemps, hein, il y a une quinzaine d'années,
ouais,
qui avait marché. Je crois me souvenir que Le Premier Jour du Reste de ta vie.
Oui, ça c'est un très bon exemple.
C'est un bon exemple. Il est sorti quand?
Sorti août, fin juillet, je me
fin
souviens,
juillet.
En 2008.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bouche à oreille.
Incroyable. Et le film s'est installé au fur et à mesure des semaines et avec une presse bonne, mais pas dithyrambique, mais plutôt qui l'avait soutenu, sans être exceptionnel. Mais le film a conquis le public, mais vraiment. Alors là, c'est un très très bon exemple, mais c'est malheureusement, ils sont rares, ils sont très rares. Mais le film avait su toucher le public.
Ça me fait penser, je crois, c'était il y a 2 ans, un autre film avec Pio Marma, et je crois que Maestro s'est installé dans un truc moindre,
ouais,
mais parce que c'était un petit film, mais
ouais,
il a
quand même fait quand même 150 ou 200 000 entrées, je crois, Maestro.
Ouais,
hein,
il était sorti en plein été.
Et c'était un film qui, justement, parce que le distributeur y croyait, qui s'est installé tout l'été.
Et est-ce qu'on sait, vous qui connaissez bien le cinéma américain, est-ce qu'on sait pourquoi c'est l'été pour les États-Unis?
Alors, aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de blockbusters, évidemment, c'est quasiment que ça, ou des comédies, mais depuis quelques années, Harvey Weinstein, fameux producteur américain, tente pratiquement chaque été un film pour adultes qu'on pense, ben, c'est pas toujours le cas, découvrir aux Oscars quelques mois plus tard. Il y avait Le Majordome qu'il avait sorti en plein été il y a 3 ou 4 ans. Qui a été un immense succès. Et là, au milieu des Independence Day, des Jason Bourne, des Ben-Hur, parce qu'on va avoir aussi un autre Ben-Hur, on n'en sort plus. Au milieu de tout ça, ils sortent un film sur le fondateur de McDonald's, qui s'appelle The Founder, et qui est assez attendu avec Michael Keaton, et qui est, je pense, pas du tout un film hagiographique, en tout cas, à mon avis, un film assez intéressant, et un film, clairement, que la Weinstein aurait pu sortir pour les Oscars, vraiment. Donc c'est une tentative. Donc il y a aussi de temps en temps aux États-Unis quelques contre-programmations.
Il y a Genius aussi, qui est un film anglais, mais qui sort 13 juillet, avec Colin Firth sur une histoire qui est assez beau comme film, sur une histoire d'éditeur. Mais pourquoi, ma question, Antoine, c'est pourquoi traditionnellement, c'est la saison du cinéma pour les Américains?
L'été, c'est la saison des blockbusters.
Et pourquoi?
Parce que pour
le public américain,
depuis qu'un requin a mangé tout le monde il y a 35 ans, 40 ans, bah oui, on dit souvent que le blockbuster est né là, voilà. Ouais. Et depuis, la donne a complètement changé et c'est devenu entre le 1er mai, parce que quand on dit l'été, en fait, l'été commence avant pour les gros films, 1er mai jusqu'à la fin du mois d'août, quoi.
Ouais. Et des blockbusters sortent après aussi.
Elles sortent après aussi, mais avec pas forcément toujours la même cible. Là, ce qui est quand même encore impressionnant cet été, une fois de plus, c'est les reboots, les suites, les remakes,
et ça marche,
les réadaptations. Là, en ce moment, c'est un peu une hécatombe. Hein.
Ah oui, il y a une hécatombe.
Ces dernières semaines, c'est pas très bon.
Et les autres étés, on a vu les derniers étés, depuis quelques années, on a vu des blockbusters qui se plantaient.
Ah oui.
L'été.
Ah oui, oui. Ah. Et des très gros budgets, même.
Et maintenant, il faut le dire, je le précise, ce qui n'était pas le cas avant, il y a quelques années, quand nous, on voit ces blockbusters, ils sont sortis très peu auparavant aux États-Unis. Il y a plus de...
Ouais, c'est quasiment
de
que des sorties simultanées maintenant.
C'est quasiment des sorties
pratiquement
simultanées.
Pratiquement tout le temps,
ouais. Voilà. Bon, on a tout dit sur le sujet.
Je pense.
Voilà. Dans un instant, on se retrouve pour le quiz.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, je vous rappelle que le thème à une journée de la demi-finale France-Allemagne, on avait choisi un beau thème, le foot au cinéma, d'accord? Donc, concentrez-vous bien. C'est à la fois facile et difficile. Facile parce qu'il n'y a pas tant de films sur... Mais il y a peut-être quelques documentaires, donc on va voir ce que ça va donner. On y va pour le premier.
Que le dernier classe.
Super.
C'est un film anglais.
Hey, ce que je viens de faire là, c'est qu'un numéro de cirque. Ça sert à rien sur le terrain. On a besoin de 11 hommes formant une équipe, pigé.
C'est un film anglais.
Ouais.
Ouais, carton jaune ou carton rouge.
Ouais,
carton jaune.
Trop fort. Trop fort, Antoine. Carton rouge, film britannique, jamais entendu parler, réalisé en 1997 par Barry Skolnick. Faut le faire. Hein. Bon, attention, le deuxième.
Je vois pas pourquoi être allongé sur des pierres, ça va mieux nous faire jouer au football.
C'est un truc bouddhiste pour la concentration.
Mais oui, il a raison, il le fait, machin, là, petit scarabée dans Kung Fu.
Qu'est-ce que tu dis, quelque chose, non? Non, non, ça c'est un film français, c'est de 1999.
Arthur.
De Philippe Dajou.
Ah. Arthur, ouais, c'est le mec à l'émission parce que hier soir, quand il était. Il avait
ta gueule!
Bon.
Tu vois pas qu'on fait le choc bouddhiste? Tu vois pas?
Bon. Donc, zéro. Les collègues. Personne n'en a jamais entendu parler. Ah, celui-là, il est un peu plus connu.
Ah ouais? Moi j'ai l'impression que c'est la guerre qui cherche. Ouais. Alors tu me convoques tous les sponsors, tous les médias.
Absolument.
Le Titi Bon, je veux le voir partout. Il faut le sortir, il faut m'en faire une star.
3-0 de qui on entendait là?
Darmon.
Darmon, c'est ça. Oui, il y avait Lanvin aussi dans le film, non? Ah, c'est ouais. Ça. Réalisé donc par Fabien Taniente en 2002. 4, c'est pas un film français.
Il touche sa balle. C'est Bud Bloody.
Joue la comme Beckham.
C'est vous qui lui avez appris ça?
Non, c'est un truc incroyablement pas connu, d'après moi. C'est Gaulle, la naissance d'un prodige. Ça vous dit quelque chose?
Non.
Réalisé par Danny Cannon en 2006. Bon, on continue. Le 5.
Et moi, pourquoi je m'entraîne pas?
Toi, tu as des jambes puissantes, seulement tu ne les maîtrises pas. Tu tapes comme une brute dans le ballon. Si tu touches un avion, tu paieras pour les dégâts.
Ah, j'ai pas d'argent.
Ah ben voilà.
Hong Kong. Stephen Chow.
Shaolin Soccer.
Ah, absolument. Je préférais que ce soit vous qui le disiez, vous prononcez mieux. Bon, donc, le 6.
Allez, on y va doucement, on force pas, c'est une remise en jambe avant tout. Voilà, du souffle.
C'était un flop.
Allez-y doucement, du souffle.
Réalisé par un mec qui réalisait pas du tout ce genre de film d'habitude.
Ah oui, Olivier Dahan, non? Les Seigneurs.
Les Seigneurs, voilà, avec Garcia. Les Seigneurs, Olivier Dahan, 2012, qui n'était pas terrible, hein, qui n'avait pas bien marché. Alors là, je me demande si c'est pas... Je pense que c'est plutôt un documentaire, hein, mais je sais pas. On y va, le 7.
Écoute-moi, je vais être super clair. La dernière chose que je veux, c'est t'emmener voir ce match avec moi. Alors je vais te dire un truc. Tu me files la moitié du pognon, je vais voir le football, et toi, il va t'accaler visiter la Tour de Londres, ou ce que tu veux, les Amerlocs, ils aiment mater les tontons.
Un film américano-britannique.
Les tontons? Tonton. Tonton, téton, néné. C'est pour la rime, quoi. C'est comme oignon pour pognon.
Ah, c'est pas évident.
T'as piégé
hein.
Le truc.
C'est les Hooligans. Ça vous dit quelque chose? Réalisé par Lexi Alexander en 2005. Voilà. Celui-là, c'était, je crois, un jeu. Dans mon souvenir, c'est plutôt un joli petit film, mais c'est plus récent, vous devriez savoir.
Oh, c'est bien parti.
Ouh, tu vois, c'est ça ton problème, cousin. Tu concrétises pas tes occasions. Le foot, les filles, c'est pareil. Faut partir du principe qu'aucune équipe n'est imbattable.
Ok.
Tu vois, Chloé, la jolie rose de
oui,
ma classe.
C'est pas Les Petits Princes.
Trois semaines de travail.
Ouais, c'est un joli film. Ouais.
Les Petits Princes, réalisé par Vianney Le Basque, en 2013. Le 9e, l'avant-dernier, un grand classique.
Attendez avant de sortir, il y en a toute une flopée devant la porte et c'est vous qui nous attendent.
Ah bah oui, peut-être Jean-Jacques Hano.
Faut que je file à FR3, j'ai une table ronde sur l'arbitrage.
Ah non, à mort l'arbitre. Hein.
Et vous croyez qu'il est dangereux?
Exact.
Oh bah, Michel et Serrou.
Coup de tête, il ressort d'ailleurs.
Ouais, coup de tête,
le ressort en version restaurée là-bas au cinéma Pathé où il y a des vieux films. À mort l'arbitre, donc réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1984, ça fait quand même un bout de temps. Et le dernier, mais pas le moindre.
It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man.
I'm not a man.
Madame Joe.
Madame Cantona.
Ah, ça aurait pu.
Bah, Looking for Eric.
L'autre. C'est le même réalisateur. Looking for Eric, réalisé par Ken Loach, sorti en 2009. C'est vrai que Madame Joe, c'était aussi une histoire de foot. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Mais c'était pas évident, hein. Moins évident que parfois. On se retrouve dans un instant pour conclure cette émission.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors je remercie Sébastien Marnier pour nous avoir tenu compagnie pendant une heure. Alors voilà, maintenant c'est la question traditionnelle, on se repose, les projets, la carrière est lancée, ça va dépendre du succès du film, voilà, toutes les questions du seul. Sébastien.
Oh, la carrière du film, ça, j'en sais rien pour le moment, on va attendre. J'ai encore pendant une semaine des rencontres avec le public et des débats. Ouais. Et puis après, on fait une pause et puis je mets la touche finale au scénario qu'on tourne l'année prochaine.
Voilà. Est-ce que vous sentez, vous qui avez, je me souviens bien ce que vous avez dit au début, ramé pendant 10 ans, que le fait que le film démarre plutôt bien, a eu un très bon accueil critique, ça vous donne quand même une carte?
Moi, je sais que le plus important quand même pour un premier film, en vrai, à la base, surtout comme ouais. pour le mien, c'est quand même la presse.
C'est ça, l'accueil. Hein.
C'est-à-dire...
Parce qu'on a vu des petits films super bien accueillis, qui marchaient pas bien, mais hop, le réalisateur faisait son second film.
C'est vraiment rentrer dans le milieu, en fait. Dans le club, exactement. Quoi. Et en plus, il marche effectivement un peu, c'est super.
Est-ce que vous allez continuer un peu dans la même veine sans déflorer vos sujets?
Oui.
Ouais.
Le prochain est un suspense aussi.
Le prochain, c'est avec les gamins?
Ouais, c'est ça. C'est adapté d'un bouquin. C'est la relation entre un prof de français qui vient remplacer un autre prof qui s'est suicidé et qui hérite d'une classe qui est la meilleure classe de l'académie et qui est bien trop sage et bien trop poli, bien trop honnête pour être... bien trop sage pour être honnête.
Ah d'accord.
C'est le rapport ambigu entre le prof et ses élèves.
Pas de casting encore.
Sur le prof, on est dessus, mais sur les gamins, on va commencer bientôt. Voilà.
Et sur le prof, ça va être un nom.
Il y a des noms intéressants.
Les circuits. D'accord, très bien. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Je rappelle que votre film Irréprochable avec entre autres Marina Foïs sort aujourd'hui. Allez le voir. Nicolas.
Oui, toute l'actualité de la radio et toute l'actualité du cinéma, c'est sur Twitter Sens Radio.
Voilà, et on se retrouve pour cette grande séance. En tout cas, vous allez retrouver cette grande séance. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 20 juillet et ce sera le dernier rendez-vous de la saison. Merci à tous.
C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.